Cette machine, c'est celle qui changera le plus notre vie dans l'avenir.
C'est pour aujourd'hui, pour demain.
Qu'est-ce qui a changé ?
Bonjour à tous, dernier numéro de la saison estivale durant laquelle nous nous penchons chaque samedi jusqu'à 10h sur les conséquences de la transformation numérique dans notre quotidien. Depuis le plan informatique pour tous lancé en 1985 par Laurent Fabius, alors Premier ministre, cela fait maintenant plus de 30 ans que la France enchaîne les initiatives pour faire entrer le numérique dans l'enseignement. Après les salles informatiques, les tableaux interactifs, les cartables électroniques ou les espaces numériques de travail, la dernière opération en date remonte à septembre 2014, quand le président François Hollande annonçait un grand plan numérique pour l'école de la République, prévoyant pour 2018 que 100% des collégiens disposent d'un outil numérique. Ce matin, à quelques jours de la rentrée scolaire, nous nous intéressons donc à l'éducation pour voir où nous en sommes dans cette transformation, si les technologies ont bousculé l'enseignement et de quelle manière, quelles sont les conséquences, bonnes et mauvaises, sur les méthodes d'apprentissage et ce qu'elles peuvent apporter dans les années qui viennent. C'est ce que nous allons demander à nos invités. Tout d'abord, Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique. Bonjour Madame Lemaire.
Bonjour.
À vos côtés, François Taddeï, fondateur et directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire, le CRI, à Paris. Bonjour Monsieur Taddeï.
Bonjour.
Au téléphone, depuis la Belgique, Marcel Lebrun, docteur en sciences, professeur en technologie de l'éducation et conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab de l'Université catholique de Louvain. Bonjour Monsieur Lebrun.
Bonjour.
Et présente avec nous en studio depuis une partie de cet été, Morgane Thual, journaliste du quotidien Le Monde, qui est partenaire de l'émission. Bonjour Morgane.
Bonjour.
L'émission est réalisée par Hélène Biziot, avec l'aide aujourd'hui de Florent Layani à la technique. Elle est préparée par Léa Dupri-Nienquin et Béatrix Moreau. Merci donc à Hélène, Léa et Béatrix, hein, l'équipe de choc qui m'a accompagné et parfois supporté tout au long de ces deux mois. Et également à Thierry Dupin qui l'a mise en musique. C'est parti pour un cours de rattrapage numérique.
France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain?
C'est pour aujourd'hui ou pour demain?
Didier Siamour.
Et pour commencer, Morgane, donc, vous qui nous racontez la transformation numérique de notre société dans la rubrique Pixel, sur le site et dans les pages du Monde, on peut dire qu'Internet a démocratisé l'accès à la connaissance, mais en passant parfois par des moyens détournés, comme le piratage, par exemple.
Quand on parle de piratage, on pense souvent au piratage de films ou de musique. Mais un site, lui, pirate un tout autre type de contenu, ce sont les articles de recherche scientifique. Ce site, il s'appelle SciHub et il permet d'accéder à plus de 47 millions d'articles gratuitement. Alors ça se présente sous la forme d'un simple moteur de recherche dans lequel il suffit de taper le nom, l'adresse ou l'identifiant de l'article que l'on désire pour que celui-ci apparaisse. Ça marche pas à tous les coups, mais c'est quand même très efficace et ça permet de télécharger tout un tas d'articles gratuitement, mais évidemment en toute illégalité, car ces articles sont normalement payants. En fait, ils sont publiés par de grands éditeurs de revues scientifiques.
Oui, mais à un prix que certains jugent quand même trop élevé.
Oui, et c'est le cas de la chercheuse kazakh Alexandra Elbakian. C'est elle, en fait, qui est à l'origine de ce site. Tout a commencé quand elle était étudiante. Impossible pour elle, à l'époque, d'accéder à tous les articles dont elle avait besoin pour ses recherches. C'était trop cher. C'est en tout cas ce qu'elle explique pour raconter la naissance de SciHub. 10, 20, 30 dollars, quand on vit dans un pays comme le Kazakhstan, eh bien c'est beaucoup. D'autant plus qu'on a souvent besoin de consulter des dizaines, voire des centaines d'articles pour ses recherches. Alors à ce moment-là, elle essaye de les trouver autrement, ces articles, et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle est loin d'être la seule dans cette situation. En fait, des tas de scientifiques s'échangent déjà des articles en ligne. Ils demandent à la communauté de chercheurs sur des forums, par exemple, s'ils ont accès à tel ou tel article, et ils se les partagent entre eux. À ce moment-là, il s'agit d'un petit réseau de solidarité informelle. C'est une forme de piratage artisanal, un peu comme quand on copiait les cassettes VHS de nos amis. Alexandra Elbakian, elle, va faire changer cette pratique d'échelle en recensant des millions d'articles.
Ça sent le vécu, ces cassettes VHS. Bon, ça doit pas vraiment plaire aux éditeurs, tout ça, en tout cas.
Loin de là, en effet. Elsevier, un des plus grands éditeurs de revues scientifiques, a porté plainte et obtenu gain de cause. La justice américaine a fait suspendre le nom de domaine du site, mais évidemment, SciHub est réapparu peu de temps après sous une autre adresse. C'est l'éternel jeu du chat et de la souris sur Internet. Et dans cette guerre, SciHub se positionne non pas comme un hors-la-loi, comme un voleur, mais comme un militant. Nous luttons contre l'inégalité de l'accès à la connaissance dans le monde, peut-on lire sur le site. La connaissance scientifique devrait être accessible à tout un chacun, quel que soit son niveau de revenu, son son statut social ou son lieu de vie. C'est ça le discours vanté par Sci-Hub. Alors il faut savoir qu'en fait, Alexandra Elbakian est loin d'être la première à s'indigner des conditions d'accès à la littérature scientifique. En 2012, plus de 15 000 chercheurs avaient signé une pétition pour dénoncer les prix de l'éditeur Elsevier, et même Harvard avait rejoint la fronde et révélé le prix de ses abonnements, qui était de l'ordre de 3,75 millions de dollars par an.
Ah oui, quand même.
Et résultat, eh bien, ça donne quoi ? De nombreux chercheurs qui sont pour la mise à disposition libre et gratuite de ces contenus, eh bien, en viennent à pirater leurs propres articles en toute illégalité, afin de les rendre accessibles sur Sci-Hub.
Alors, Madame le maire, quelle est votre position sur le sujet ? Vous penchez pour le respect de la propriété intellectuelle, qui est quand même sonnante et trébuchante, ou est-ce que pour vous militez plutôt pour un accès généralisé au savoir, et peut-être gratuit ?
Je crois que et le respect des droits d'auteur et l'ouverture et la démocratisation des savoirs sont heureusement possibles dans un monde numérique. Et d'ailleurs, dans la loi pour une république numérique qui a été adoptée à l'unanimité absolue à l'Assemblée nationale il y a quelque temps, et je le souligne parce que par les temps qui courent, c'est plutôt rare, eh bien, il y a une disposition sur l'ouverture et la publication en libre accès des publications scientifiques. C'était une demande très forte de la communauté scientifique et au terme d'une certaine durée, eh bien, les chercheurs pourront désormais faire le choix libre de publier en ligne leurs travaux de recherche. Pour moi, c'était très important que pousser cette disposition.
Une durée déterminée par qui ? Par l'éditeur ? Par l'auteur ?
Désormais par la loi. Alors pour des publications scientifiques, c'est de 6 à 12 mois. Pour des publications en sciences humaines, le délai est un peu plus long. Mais ce qui est certain, c'est que cet article sur ce qu'on appelle en anglais l'open access vise aussi à permettre à la recherche française d'être très attractive et très compétitive au niveau international, parce que cela permet au monde entier d'avoir accès aux travaux de recherche en France. Et je souligne que c'est pour la recherche qui est financée publiquement. Ouais. Donc ce sont des chercheurs qui travaillent pour le bien commun.
Et financés par le contribuable.
Financés par le contribuable. Et donc je trouve normal que cet accès au savoir soit rendu libre et gratuit.
Alors, monsieur Taddeï, monsieur Lebrun, on va vous entendre parce que vous êtes scientifique, vous êtes universitaire. En tant que chercheur sur l'enseignement, ces plateformes en libre accès et sans contrôle, c'est un bon moyen pour vous d'accès à la connaissance, monsieur Taddeï ?
C'est essentiel. Hein, ce qui n'a pas été dit, qui fait peut-être la différence avec la musique et les films, c'est que les droits d'auteur, les auteurs scientifiques que nous sommes, nous les cédons à ces journaux. Donc il y a quelque part une OPA sauvage qui est faite par ces éditeurs et nous on n'a qu'une envie, c'est de partager la connaissance qu'on produit, bien évidemment. Qu'on ait découvert une nouvelle planète à l'autre bout de... proche de chez nous, ou qu'on ait découvert une nouvelle molécule pour combattre le cancer, ou qu'on ait travaillé sur l'intégrisme, on a envie de partager ses connaissances avec l'ensemble des gens, et on n'a pas forcément envie d'attendre des périodes qui peuvent être longues pour ceux qui attendent ces résultats. Donc on a vraiment fondamentalement envie de ça, et c'est vrai que c'est une formidable manière de démocratiser l'accès à la connaissance, et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de permettre à tous les citoyens, y compris aux apprenants, y compris aux plus jeunes, de participer à la réflexion sur où en est la recherche et est-ce qu'on peut même y contribuer. Il y a des projets de sciences participatives, il y a des projets d'enfants chercheurs dans lesquels les enfants peuvent eux aussi contribuer au progrès de la recherche, mais encore faut-il leur donner accès.
On va en parler dans quelques minutes. Monsieur Lebrun, de votre côté, vous, cet accès vous pose problème, libre ou payant ? Que doit-on faire ?
Disons que je partage assez largement l'avis de mon collègue François Taddeï. Évidemment, les chercheurs, leur volonté, c'est de faire connaître leurs recherches, de participer à cet élan de construction de connaissances. Malgré tout, il faut dire, on n'est pas très content lorsque on retrouve finalement des extraits, des figures, etc., de ces œuvres finalement qui sont diffusées largement sans reconnaissance de paternité, etc. Il y a malgré tout des choses qui sont en train de changer et qui sont quand même assez subtil, c'est que jusqu'ici, le droit d'auteur, quelque part, venait d'un éditeur, disons, d'avoir publié dans une revue ayant bien pignon sur rue, et finalement, ça donnait la certaine reconnaissance. À l'heure actuelle, on est quand même beaucoup plus dans une certaine forme d'horizontalité. Vous avez entendu qu'il existe, par exemple, des licences Creative Commons, où finalement, c'est l'auteur lui-même qui, en mettant, par exemple, son article sur Internet, décide que cet article-là, il faut reconnaître la paternalité. Il peut être, si vous voulez, diffusé, mais à l'identique. On peut en prendre des extraits en reconnaissant l'auteur, etc. Et donc, on se rend compte que ce n'est plus une autorité supérieure qui délègue finalement les différents droits d'auteur, mais que c'est l'auteur lui-même qui dit, voilà, je vous donne accès à mon œuvre, mais je vous prie de respecter telle chose, telle chose.
Ce sera en tout cas le meilleur moyen d'accéder à la connaissance.
Oui. Aujourd'hui, les méthodes d'enseignement changent d'année en année. Maintenant, on fait plus court, on pratique l'éveil. On doit susciter l'éveil chez l'enfant.
Mais enfin, l'éveil de l'enfant, tu parles. Ben, moi, je veux bien. Mais où un enfant où est éveillé, où il ne sera jamais. Et c'est pas parce que nous, on va prendre des cours, ça va l'éveiller. Moi, si j'y vais, c'est uniquement pour gagner des points, c'est tout, hein.
Allez bien, on va déconner. On va se laisser aller. Au propre et au figuré, on va déconner. À côté d'un jour en été, on pourrait le regretter des millions d'années, des millions d'années. Tes yeux disent que t'es comme moi, envie d'en profiter. Baisse un peu la télé, on va chahuter le canapé. Chahuter le canapé. Allez bien, on va déconner. On va se laisser aller. Au propre et au figuré, on va déconner.
On va déconner.
Tu dis que je suis un peu fêlé. Sur la pendule, moi je vois.
Charles Couture, artiste touche-à-tout qui s'exprime dans la peinture, la photographie et qui s'est intéressé très tôt au numérique d'ailleurs, est revenu au printemps dernier à la musique. C'est un extrait de son album dont je vous laisse deviner le titre.
Didier Siamour sur France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain?
Si nous sommes un peu effrayés par les possibilités des ordinateurs, par contre ils passionnent nos enfants. Et cette année, au CICOB, un constructeur présentait un matériel destiné à l'enseignement. Il s'agissait d'un jeu. La machine devait découvrir le nom d'un animal auquel avait pensé l'enfant. C'est enfantin. Mais tout l'intérêt du système réside dans le fait que lorsque la machine ne trouve pas le nom de l'animal, alors l'enfant doit lui expliquer comment on y parvient.
Ce système ESOP, pour l'appeler par son nom, est destiné à être mis dans les établissements de l'enseignement. C'est une initiation à l'informatique qui est absolument nécessaire aujourd'hui, puisqu'il est évident que les enfants auront des contacts futurs avec les ordinateurs, comme aujourd'hui, ils ont déjà une grande habitude d'utiliser le téléphone, la machine à écrire et bien d'autres appareils techniques. Il y a un autre but au moins aussi important qui est de d'habituer les enfants à une rigueur dans leur démarche intellectuelle. C'est-à-dire que nous leur apprenons à formuler des questions extrêmement précises et à répondre d'une façon non moins précise aux questions qui sont formulées par l'ordinateur. En fait, l'ordinateur ici n'accepte que des réponses oui ou non. En réalité, derrière ce jeu, il y a beaucoup de choses à apprendre et là apparaît le rôle de l'enseignant, rôle qui consiste à mettre en évidence le mode de raisonnement de l'ordinateur afin de faire comprendre aux enfants ce qui se passe réellement. C'est un élément fondamental pour préparer les enfants à leur vie future d'hommes en relation constante avec des ordinateurs.
En 1970, hein, il y a donc près d'un demi-siècle, on envisageait déjà de faire une place à l'ordinateur dans l'enseignement, comme l'expliquait cet entrepreneur. Alors, ce sujet d'ordinateur à l'école s'est avéré souvent un serpent de mer pour certains, tant les dispositifs annoncés ont rarement été menés jusqu'au bout. Le changement s'est néanmoins concrétisé hein, sous une forme plus ou moins contrôlée, tant la révolution numérique est entrée dans le quotidien de chacun. Quelques chiffres d'ailleurs, près de trois quarts des enfants de moins de 15 ans disposent maintenant d'un écran personnel, télévision comprise, et il faut savoir que 8 personnes sur 10 de 12 ans et plus a accès à un accès internet fixe et mobile. Ces dernières années, les plateformes d'enseignement à distance, les sites de communication et de partage entre enseignants, élèves et parents, les vidéos permettant d'accéder aux cours des établissements parmi les plus prestigieux se sont multipliées sur la toile. Avec quelles conséquences? Pour quel avenir? C'est ce dont nous débattons ce matin avec Axelle Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique, François Taddeï, le directeur du Centre de recherche interdisciplinaire à Paris et le professeur en technologie de l'éducation et conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab de l'Université catholique de Louvain, Marcel Lebrun. Alors, mesdames et messieurs, comme moi, hein, vous pouvez constater que l'État a depuis des décennies voulu, sinon anticiper, au moins accompagner la transformation numérique de notre société, en commençant d'ailleurs par les écoles. En introduction, nous évoquions le grand plan numérique pour l'école de la République voulu par le chef de l'État, François Hollande, lequel s'exprimait encore sur le sujet il y a encore quelques mois.
Je veux que la jeunesse soit toujours la priorité, l'éducation, le numérique. Nous allons lancer un grand plan pour le numérique à l'école. Nous l'avons déjà accompli pour une part, mais il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je veux que la France soit exemplaire sur le numérique à l'école. Qu'on soit les meilleurs, si c'est possible.
Depuis la rentrée scolaire 85, le plan informatique pour tous met en place des ordinateurs dans les écoles. Apprendre l'informatique à nos enfants, c'est les préparer aux emplois de demain. Pour nous, la France avance.
Madame le maire, on a l'impression que le spot de publicité hein, gouvernementale de 1985, on pourrait changer les dates, le déplacer dans le temps, le mettre plus de 30 ans après, 31 ans après. Alors, au vu des expériences passées, a-t-on besoin d'un nouveau plan ?
Oui, plus que jamais. C'est d'autant plus que celui-là est différent des précédents et notamment du plan informatique pour tous de 1985. Pourquoi ? Parce que le choix délibéré est celui de miser sur la formation des enseignants et de miser sur l'accès à des ressources pédagogiques de nature numérique innovantes. Et donc pas uniquement sur l'équipement. L'équipement, c'est l'outil. L'équipement, c'est-à-dire que ce soit des tablettes mobiles, des ordinateurs portables, des écrans interactifs, c'est un vecteur, c'est un média, un médium. Mais ce qui importe, c'est non pas de faire entrer le numérique à l'école en 2016, c'est de faire entrer l'école dans la société numérique. Et cette idée qu'on pourrait isoler en la sacralisant l'institution scolaire la société numérique qui aujourd'hui est omniprésente dans la vie des élèves est une idée fausse et sans doute dangereuse parce qu'il est très important aujourd'hui que nos enfants soient autonomes dans cet environnement numérique et pour l'être, eh bien, il faut pouvoir maîtriser la machine et non pas être maîtrisé par la machine.
Monsieur Taddeï, si l'école ne peut pas rester indifférente à la transformation numérique d'une société qui est une transformation très globale, est-ce que ces plans, selon vous, ont une utilité ?
Je pense que c'est absolument essentiel parce qu'on a besoin d'apprendre à l'heure du numérique. Ça veut dire qu'il faut apprendre par le numérique en partie, il faut apprendre pour le numérique éventuellement à coder, mais il faut aussi apprendre à l'heure du numérique, ça veut dire éventuellement apprendre éventuellement à éteindre son téléphone par moment. Il faut éventuellement apprendre à développer l'esprit critique. On a toujours eu besoin de l'esprit critique, mais à l'heure d'Internet et de tout ce qui circule sur la toile, on a toujours plus besoin de ça. On a besoin de quelque part de développer une espèce de système immunitaire cérébral qui nous permet de résister à des virus qui peuvent se propager sur Internet et qui sont pas tous bien intentionnés. Donc on a vraiment besoin de développer une capacité à lire le monde qui nous entoure, qui est un monde qui va toujours plus vite. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne les enfants pour faire ça, c'est essentiel. Et donc, il faut développer leur esprit critique. Et donc, il faut former les enseignants à comprendre comment est-ce qu'on peut développer l'esprit critique à l'heure du numérique. Il y a un nombre d'invariants que Socrate connaissait déjà, mais il y en a un certain nombre d'autres et de spécificités. Par exemple, la théorie du complot, c'était pas forcément quelque chose d'aussi important il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est indispensable. Donc, comment est-ce qu'on apprend à décrypter l'actualité, comment est-ce qu'on apprend à prendre du recul entre ce qu'on peut entendre dans la cour d'école, ce qu'on peut trouver sur le web dans des sites qui sont de qualité très inégale. Il y en a qui sont évidemment excellents et d'autres qui sont au contraire inquiétants. Comment est-ce que, on le savait depuis Ésope, la langue, c'est la meilleure et la pire des choses. Le numérique, ça peut être exactement la même chose. Donc on a vraiment besoin de développer cette capacité. Hein, Socrate était déjà critique par rapport aux technologies de son temps, par qui étaient l'écriture et la peinture. Hein, il disait, quand on lit, on ne sait pas qui, on ne peut pas poser de questions à celui qui a écrit. Et quand on écrit, on ne sait pas qui va nous lire. Eh bien ça, c'est très vrai, encore plus à l'heure d'Internet.
Marcel Lebrun, vous êtes au téléphone avec nous depuis Louvain. Est-ce que on n'a pas l'impression qu'il y a un virage là qui est pris? On entendait Axel Lemaire nous dire qu'aujourd'hui, c'est la formation des enseignants qu'il faut... il faut aller dans la formation des enseignants sur le numérique et pas forcément que dans les équipements. On a l'impression que jusqu'à maintenant, c'était plutôt d'abord les équipements.
Oui, je pense réellement que nous sommes actuellement, je m'intéresse à ces technologies dans l'éducation, dans l'enseignement, comme on disait, depuis une trentaine d'années. Je pense que enfin, on est arrivé finalement à faire sortir la réflexion sur les technologies de l'outil lui-même. Et je dirais même, l'outil reste évidemment une condition nécessaire, parce que s'il n'y a pas les outils, ben finalement notre conversation maintenant n'a pas lieu d'être. Mais elle est une condition nécessaire, mais je dirais qu'au-delà de la compréhension du fonctionnement de l'outil, de la compréhension du codage de l'outil, l'informatique, l'ordinateur tel qu'il est considéré actuellement, on appelle ça maintenant le numérique, ce n'est pas qu'une affaire de machines, de tablettes, de TBI, c'est vraiment une histoire de culture. La société elle-même, j'appelle souvent notre société actuelle une sorte de nouvelle renaissance. La renaissance, c'est l'époque où les hommes finalement se sont libérés quelque part du pouvoir des dieux un peu magiques pour remettre en place la raison. Eh bien, je pense que nous sommes en train maintenant de vivre une renaissance telle que celle-là, mais où finalement l'objectif, si vous voulez, les finalités sont d'ordre culturel, de relation au savoir, de relation au pouvoir, de relation aux autres. L'outil nous émancipe, nous inventons des outils depuis la nuit des temps pour nous libérer de tâches fastidieuses et pouvoir faire autre chose. Le gros problème, c'est que cette autre chose est mal définie, on a du mal à le comprendre. Les autorités qui nous gouvernent ont encore une image de la politique telle qu'elle a été définie il y a plusieurs siècles. Je pense que tout ça, notre relation aux autres, les relations commerciales, nos relations au savoir, nos relations au niveau de la politique de la cité sont en train de changer. Et si l'école est finalement le lieu qui prépare à la société, ce n'est pas tant le fait de mettre de l'informatique à l'école. Qu'est-ce que c'est de cette histoire-là? Les jeunes et les enseignants, par exemple ici en Belgique, les enseignants sont équipés d'Internet à 97%. Alors bon, finalement, qu'on arrête de me parler de mettre du numérique à l'école, il y est déjà, mais malheureusement, la forme scolaire, c'est-à-dire le rapport au savoir, le rapport au rôle aussi qui est tenu par l'enseignant, par l'élève, etc., sont des choses qui sont vraiment bousculées par le numérique. Alors quand on me dit « on va mettre en place la formation des enseignants », c'est très bien, C'est vraiment par là qu'il faut commencer, parce que les plans d'équipement antérieurs ont montré qu'on mettait du matériel dans les écoles et les enseignants ne savaient pas l'utiliser. Donc la formation, oui, bien sûr, mais j'interroge, et de manière très forte, la formation à quoi ? À quel type de savoir ?
On va en parler juste après, Marcel. Merci beaucoup.
La machine à apprendre, elle vient d'Amérique. Alors, qui va commencer ? Premier de ces messieurs. Asseyez-vous.
Asseyez-vous. Attention, une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. ONU, Organisation des Nations Unies, fondée en 1942. Attention, répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter ?
Si. L'ONU a été fondée en 1942.
En quelle année ?
En 1942.
Répétez plus vite. Répétez 42 plusieurs fois. Attention, nouvelle question. Choisissez la bonne réponse.
C'est New York.
Réponse aïe, fausse. Aïe, Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. Répétez.
Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940.
Plus vite.
Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940.
En quelle année ?
En 40.
Qui ?
Kennedy. Non, Trotsky.
Où ?
Dallas.
Qui ?
De Broglie. Donc Kennedy. Assassiné en 1940 aux Jeux Olympiques de Mexico.
La guerre d'Espagne a commencé en 1936. Répétez.
La guerre d'Espagne a commencé en 36.
En quelle année ?
En 36.
Quoi ?
La guerre d'Espagne.
En quelle année ?
En 36.
Quoi ?
La guerre d'Espagne.
En quelle année ?
36.
Terminée en 36 ?
Non, elle a commencé en 36.
Bravo, vous avez mérité une petite récompense.
C'était Gorillaz et De La Soul dans une version revisitée par Hélène Bisio, la réalisatrice de l'émission qui s'est amusée à remixer le tube de 2005 de Damon Albarn avec un extrait du film Les Sous-doués de Claude Zidi. Et l'ordinateur, hein, la fameuse machine à apprendre, devrait encore avoir des choses à apprendre, hein, puisqu'elle date à 1942, la création de l'ONU. Et ici en studio, on a tout de suite corrigé. C'est forcément un organisme fondé en 1945.
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? sur France Inter.
Alors si cette machine à apprendre est restée dans le domaine de la fiction, et c'est tant mieux, l'enseignement, le partage des connaissances vivent, eux, la révolution numérique, à l'instar des autres secteurs de la société. Mais avec les nouvelles technologies, l'école au sens large a perdu une partie du monopole du savoir au profit de nombreuses autres formes. Nous voyons par exemple de plus en plus d'approches collaboratives se développer. Un exemple avec monamphi.com, un reportage diffusé sur France Inter en mars dernier.
On trouve un peu de tout sur le site, des cours d'éco, de médecine, de littérature, d'ETD, d'archéologie, de théorie du sport et des séries télévisées allemandes. Un peu plus de 30 000 fichiers pour 120 000 utilisateurs, comme Julien qui poste des cours d'histoire et de journalisme depuis 2 ans.
Ça peut être très utile au niveau scolaire, puisque je sais qu'on décroche très rapidement dans des amphis où on n'écoute pas. Et avoir le cours en ligne juste après, c'est quand même très pratique. Je partage beaucoup de cours sur les réseaux sociaux pour faire profiter à mes amis et je regarde aussi les cours de psychologie, de droit, de géographie, enfin je m'intéresse un peu à tous les domaines. J'aime bien voir ce que les étudiants font dans les autres universités.
Le point faible du site pour Julien, pas assez de critiques. Parfois les cours sont incomplets ou pas très clairs. Ils sont pourtant régulièrement vérifiés. Lou Lemaire, cofondatrice de la start-up, nous explique comment.
Il y a une automodération en fait par les étudiants qui vont télécharger les cours, qui peuvent les noter et les commenter. On va avoir des commentaires du type « Tiens, c'est très bien, mais si tu veux progresser, ce serait bien que tu mettes certains éléments en relief, il y a des couleurs. » Et donc, en lisant les commentaires, en regardant la notation et le nombre de fois où le cours a été téléchargé, on peut savoir quelle est la qualité du cours.
Dans quelques semaines, monamphi.com ouvrira une nouvelle section, celle des professeurs. Ils pourront proposer leurs propres cours de façon payante cette fois-ci.
Le collaboratif, Monsieur Tadei, vous qui dirigez le Centre de Recherche Interdisciplinaire, c'est une des particularités d'Internet, mais est-il bien utilisé dans le cadre de l'école ?
Ce qui est sûr, c'est que le système au départ a été construit comme une méritocratie et comme un système de compétition qui peut être extrême et qui peut être mal vécu d'ailleurs par toujours plus d'élèves. Et donc, on n'a pas forcément développé la capacité à coopérer à l'école jusqu'à maintenant. Il y a un certain nombre de réformes, dont la réforme du collège, qui vont dans ce sens-là. Donc, on peut qu'en être heureux. Mais on a besoin de beaucoup plus de ça. Dans le monde de l'entreprise, c'est évident qu'on a besoin de coopérer avec une équipe. Dans le monde du sport, c'est évident. Dans toujours plus de domaines, ça l'est. Donc, comment est-ce qu'on apprend ça ? Et les comparaisons internationales, et Yann Algan le montre très bien, montrent que les Français coopèrent moins, en particulier à l'école, et ont moins confiance les uns dans les autres, et aussi dans leurs institutions, dans leur hiérarchie, etc. Et ça, c'est parce que on est dans ce système ultra compétitif. Et donc, il faut passer d'un système de compétition sur les savoirs d'hier, parce que c'est exactement comme ça que fonctionne le système, y compris de classe prépa, à un système de coopération pour co-construire les savoirs de demain. Parce que de toutes les manières, les savoirs d'hier étant dans les machines, si la seule chose que vous sachiez, c'est les savoirs d'hier, vous serez remplacé par une machine demain. Donc par contre, si vous êtes capable de coopérer, si vous êtes capable de créer, si vous êtes capable de critiquer l'existant de manière constructive, si vous êtes capable de communiquer avec des gens qui viennent de mondes très différents du vôtre, alors vous pourrez ensemble faire des choses que vous ne sauriez jamais faire seul. Et donc vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir inventer votre propre métier demain, à l'heure où l'intelligence artificielle et la robotique vont déplacer toujours plus d'emplois.
Alors Madame Le Maire, comment on peut inciter les différentes parties à l'école qui se retrouvent dans la communauté scolaire, comme on dit, que ce soit les élèves, les enseignants d'abord, et puis aussi les parents, et comment on peut les inciter à collaborer, à être dans ce schéma collaboratif? Et puis c'est toujours cette même question derrière, c'est comment on hiérarchise, comment on organise tout ça?
Il y a certainement un enjeu d'acculturation du monde éducatif et en particulier chez les enseignants pour expliquer les vertus potentielles de l'adoption de méthodes plus collaboratives en lien avec l'utilisation des outils numériques. Il y a un paradoxe qui est que le fonctionnement d'une classe telle qu'il existe encore majoritairement aujourd'hui, c'est-à-dire une salle carrée avec des fenêtres orientées vers l'est, un prof devant qui donne un enseignement unilatéral, certes l'image est caricaturale, mais ce fonctionnement il a été inventé au XVIe siècle. Et 4 siècles plus tard, finalement, il n'a pas tellement changé, alors que sur tous les aspects de la société, les modifications étaient très profondes.
Et ce que permet, les élèves ont changé.
Mais complètement. Et ce que permet le numérique, c'est à la fois l'introduction de ces partages dans l'apprentissage des connaissances, mais aussi une plus grande personnalisation et un plus grand suivi individuel des élèves de la part des enseignants qui peuvent finalement avoir accès à une photographie en temps réel du niveau d'avancement de chaque élève dans son travail. Alors c'est vrai que la France a cette particularité d'avoir un système éducatif qu'on peut considérer comme élitiste, avec pour résultat que les élèves souvent ont peu confiance en eux. Et les études PISA montrent que les élèves français sont souvent ceux qui osent le moins répondre aux questions qu'on leur pose parce qu'ils ont peur de l'échec, ils ont peur d'être réprimandés, ils ont peur d'avoir la mauvaise réponse. Et puis aussi, on travaille peu sur les projets collectif et donc il faut que les élèves français soient plus en capacité, ne serait-ce que pour leurs futures compétences professionnelles, à travailler en équipe. Attention, je ne veux pas caricaturer la manière dont se passent les enseignements en France, mais disons que le numérique, finalement, c'est un prétexte. C'est un prétexte à faire autrement, à apprendre, à innover par les outils pour que l'enseignant reste au cœur de la classe, mais aux côtés des élèves.
Alors on voit qu'il y a d'autres, je parlais d'autres formes, donc là on parlait du collaboratif, il y a également les MOOC aujourd'hui, les MOOC qui ont assisté depuis une dizaine d'années à l'explosion de ce qu'on appelle des Massive Open Online Courses, donc des cours en ligne ouverts, qui ont été créés à l'initiative des universités nord-américaines depuis 2008. En France, en 2013, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a lancé sa plateforme FunMOOC. L'impression, ça donne presque l'impression d'une compétition internationale dans ce domaine, en fait, il faut quand même le dire, côté rayonnement. Marcel Lebrun, vous qui prenez une nouvelle pédagogie, c'est pas une nouvelle pédagogie, c'est une pédagogie qui remonte déjà pas mal de temps, mais qui s'appelle la classe inversée, est-ce que vous avez l'impression, d'abord vous pouvez peut-être nous préciser ce que c'est, et est-ce que vous avez l'impression que les nouvelles technologies peuvent y aider ?
Oui, tout à fait. Donc, dans les interventions précédentes, on a vu, et ça a été cité de nombreuses fois, l'importance d'aller vers une école où, bien sûr, les nécessaires savoirs sont toujours là, mais en plus, et c'est probablement lié à la société numérique, on doit développer des compétences du style collaboratif, esprit critique, recherche d'informations, communication, etc. Le challenge est difficile. D'autre part, on a les MOOC, oui, bien sûr, on en parle beaucoup. Ma position par rapport à ça, c'est que finalement, et il suffit de les regarder, c'est une forme d'enseignement, comment dire, magistral déguisé, puisque qui trouve-t-on ? On y trouve des vidéos d'enseignants qui expliquent leur matière et éventuellement quelques QCM. Alors finalement, l'idée, c'est de mettre ces deux choses ensemble. Puisque, malgré tout, et bien au-delà des MOOC, les savoirs sont en partie externalisés. Autrement dit, on peut accéder aux savoirs en dehors de l'école. Et puisqu'il revient à l'école de former des citoyens, des élèves davantage capables de communiquer, collaborer, faire preuve d'esprit critique, etc., l'idée des classes inversées, mais l'idée, comment dire, élémentaire des classes inversées, est de dire, ben, les élèves pourraient, avec leurs médias, leurs outils, etc., consulter les savoirs en dehors de la classe, ou en tout cas en absence de l'enseignant, de manière à mieux profiter de la présence à l'école pour développer des compétences au travers de problèmes, de situations problèmes, d'études de cas, de projets, etc., etc. Donc, encore une fois, les technologies libèrent de l'espace-temps de l'école pour pouvoir y faire autre chose. Ma seule question, c'est, les enseignants vont-ils être formés de manière isomorphe, c'est-à-dire former les enseignants comme on voudrait que plus tard ils forment leurs élèves. Qu'est-ce que vous voulez? Si on forme les enseignants en leur donnant des conférences sur les méthodes actives, ils continueront à faire des conférences, mais pas nécessairement de mettre en place des méthodes actives.
Alors, François Taddeï, vous avez l'air d'acquiescer à tout ce qui est dit. Souvent, vous vous dites, les enseignants, faudrait leur apprendre à apprendre.
Je pense que les enseignants ont effectivement besoin de changer progressivement leurs pratiques et ils ont besoin d'apprendre différemment pour pouvoir enseigner différemment. C'est exactement ce que dit Marcel. Je pense qu'en fait, nous on a un credo au Centre de Recherche Interdisciplinaire qui est qu'on est tous nés chercheurs. C'est vrai des enseignants, c'est vrai des parents, c'est vrai de tous les citoyens et c'est vrai des enfants. Les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. Donc quand on a appris cette nouvelle qui, moi, m'a quand même surpris, on s'est demandé si on pouvait essayer de transposer des choses comme ça. On a été dans la classe d'Ange Ansourd à l'époque, et depuis est né ce projet qui s'appelle Les Aventuriers, que Ange et son équipe portent, qui est un projet dans lequel on invite les enfants à partir de leur questionnement et à passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique, accompagné par des chercheurs qui, dans différents domaines, qui vont aujourd'hui de l'histoire à l'astrophysique, en passant par la biologie, le cerveau, le climat, etc., sont capables d'accompagner les enfants qui, dans leur curiosité naturelle, s'intéressent aux grands problèmes du monde, s'intéressent aux grands changements. Par exemple, l'astrophysique, il y a une planète qui est beaucoup plus proche qu'on ne l'imaginait. Tout d'un coup, ça va évidemment stimuler l'imaginaire des enfants. Comment est-ce qu'on peut les amener à partir de là à réfléchir et à se questionner et à inventer et à co-construire des projets à partir de là?
Quand on entend toutes ces approches, Madame le maire, on se dit quoi en tant que politique, en tant que dirigeant? On se dit qu'est-ce qu'on peut impulser plutôt? François Hollande parlait d'équiper 100% des collégiens en 2018 avec un outil numérique, mais est-ce que c'est le passage obligé, ou est-ce qu'il y a, vous parliez d'abord la formation des enseignants, c'est quoi l'école du futur à travers ça pour vous?
C'est une école qui sait expérimenter et qui sait essayer d'innover au sein des établissements, au sein des classes, et qui n'a pas le sentiment d'être en retard sur les programmes, ou que ça soit un frein à la progression d'une carrière que de le faire. Au contraire, c'est une école qui encourage cette espèce de test permanent que permet l'apprentissage par le numérique. Le rôle du politique, c'est d'impulser une dynamique très forte pour que toute l'école épouse ce potentiel du numérique, en rappelant que non seulement il y a un potentiel fort d'intégration sociale, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notamment pour les élèves en situation de handicap ou pour des élèves qui auraient des retards scolaires, eh bien, les outils numériques peuvent les aider et les aider à être suivis à leur propre rythme, mais aussi parce que je crois que finalement le principal obstacle à surmonter, c'est le creusement des inégalités sociales du fait du recours aux technologies sans médiation par l'éducation. Nous avons donc une responsabilité absolue en tant que responsables politiques de s'assurer que cet apprentissage par le numérique soit accessible à tous les enfants.
En tout cas, on aura retenu qu'on a à l'école, on devrait avoir le droit de se tromper.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux.
Malgré sa courte histoire, l'ère numérique regorge d'objets qui ont connu un développement, un lancement, parfois une explosion et souvent un abandon. Aujourd'hui, nous revenons à travers les archives repérées par Léa Dupuy-Yannequin et mixées par Hélène Bizio sur ce qui a souvent été le premier contact avec un outil numérique pour la jeunesse, l'une des premières consoles de jeux vidéo, à savoir l'Atari 2600. Lancée en 1977 aux États-Unis, elle arrive en France en 1981. Les plus de 30 ans s'en souviennent peut-être, c'était la console que vous connectiez à votre télévision avec la prise Péritel.
Donc le principe du jeu consiste à défendre ces bases qui sont placées dans la galaxie à différents endroits. Alors la galaxie étant immense, on l'a donc figurée par ces petits carrés et nous allons nous rendre dans un coin de la galaxie. Pour cela, on va regarder à travers le hublot ce qui se passe, on va mettre nos protections, on va mettre un computer, j'appuie sur C, en route pour bien viser, et puis on s'y rend.
Non, je ne crois pas que ce soit des gadgets, c'est aussi un accessoire du téléviseur que chaque famille possédera bientôt. Étant donné le faible prix de ces appareils, je crois que ces appareils vont pouvoir, je vous disais que ça valait moins cher qu'une chaîne Hi-Fi, 3800 francs, ces appareils vont pouvoir être maintenant chez chacun, et chacun va pouvoir s'en servir, non seulement comme système d'éducation, comme système de jeu, mais aussi comme clavier pour faire votre courrier, pour faire votre gestion familiale de
c'est
budget.
C'est ça, on peut gérer son budget familial.
On peut gérer son budget. Dès aujourd'hui, on pourra avoir accès au téléphone électronique, donc tout peut se faire à partir de cet appareil.
Quelque chose d'assez lamentable et assez commercial. Étant donné qu'il y a des tas de gens pour jouer, je ne vois pas pourquoi on irait jouer contre des machines qui d'ailleurs sont assez faibles pour l'instant. Et ensuite, ces machines, pour l'instant, je trouve, manquent totalement d'intérêt. La machine n'explique pas du tout ce qu'elle fait, elle joue des coups. On perd sans comprendre pourquoi on perd. C'est un très très mauvais moyen pédagogique, contrairement à ce que disent tous les vendeurs.
Et là, j'ai encore un ennemi. satellite dans l'espace, le voilà, il me tire dessus, voilà. Et vous allez voir qu'à un moment on a des petits problèmes, voilà, là on a pris plein la figure, et puis à un moment ça va pas aller très bien, je vais enlever mes protections, et s'il me tire dessus, je crois que voilà, c'est fini, je suis détruit.
Atari, great ideas, from Ingersoll.
Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça. Jusqu'à la prochaine fois.
L'Atari 2600 a été produite jusqu'en 1991 et s'est vendue quand même à 25, entre 25 et 40 millions d'exemplaires à travers le monde. En France, les ventes frôlaient les 25 000 exemplaires dans l'année 1986. Merci beaucoup Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique. Merci François Tadei, vous êtes directeur, je répète, du Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris. Et on vous entendra demain à 13h20 sur France Inter, encore, pour un entretien avec Mathieu Vidard dans Chercheurs d'avenir. Et merci à vous Marcel Lebrun, donc vous êtes professeur en technologie de l'éducation et conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab à Louvain. Donc remerciements également à Morgane Tual ainsi qu'à Damien Leloup, deux des journalistes de la rubrique Pixel et du quotidien Partenaire du Monde qui ont accompagné l'émission tout l'été ainsi qu'à toute l'équipe de Cap Digital. On se quitte sur la musique d'un film qui nous a montré d'autres méthodes d'enseignement possibles, Le cercle des poètes disparus, le célèbre film de Peter Weir qui avait attiré quand même 6,5 millions de spectateurs dans les salles en 1990.